par les plaines de la Bourgogne. Ce déluge ne cessa qu'à Mâcon. Après Lyon, le jour parut. Clotilde avait sur elle les lettres de Pascal, et elle attendait l'aube avec impatience pour revoir et étudier ses lettres, dont l'écriture lui avait paru changée. En effet, elle eut un petit froid au cœur en constatant l'hésitation, les sortes de lézardes qui s'étaient produites dans les mots. Il était malade, très malade. Cela maintenant tournait à la certitude, s'imposait à elle par une véritable divination où il entrait moins de raisonnement que de subtile prescience. Et le reste du voyage fut horriblement long, car elle sentait croître son angoisse à mesure qu'elle approchait. Le pis était que, débarquant à Marseille dès midi et demi, elle ne pouvait prendre un train pour Plassans qu'à 3h20. Trois grandes heures d'attente. Elle déjeuna au buffet de la gare, mangea fiévreusement, comme si elle avait eu peur de manquer ce train. Puis, elle se traîna dans le jardin poussiéreux, alla d'un banc à un autre, sous le soleil pâle, tiède encore, au milieu de l'encombrement des omnibus et des fiacres. Enfin, elle roula de nouveau, arrêtée tous les quarts d'heure aux petites stations. Elle allongeait la tête à la portière. Il lui semblait qu'elle était partie depuis plus de 20 ans et que les lieux devaient être changés. Le train quittait Sainte-Marthe lorsqu'elle eut la forte émotion, en allongeant le cou, d'apercevoir à l'horizon, très loin, la Souleyade, avec les deux cyprès centenaires de la terrasse qu'on reconnaissait de 3 lieues. Il était 5 heures. Le crépuscule tombait déjà. Les plaques tournantes retentirent et Clotilde descendit. Mais elle avait eu un élancement, une douleur vive, en voyant que Pascal n'était pas sur le quai à l'attendre. Elle se répétait depuis Lyon « Si je ne le vois pas tout de suite à l'arrivée, c'est qu'il est malade. » Peut-être, cependant, était-il resté dans la salle ou s'occupait-il d'une voiture dehors. Elle se précipita et elle ne trouva que le père Durieux, le voiturier que le docteur employait d'habitude. Vivement, elle le questionna. Le vieil homme, un provençal taciturne, ne se hâtait pas de répondre. Il avait là sa charrette, il demandait le bulletin de bagages, voulait d'abord s'occuper des malles. D'une voix tremblante, elle répéta sa question. « Tout le monde va bien, père Durieux ?»« Mais oui, mademoiselle !» Et elle dut insister, avant de savoir que c'était Martine, la veille, vers 6 heures, qui lui avait commandé de se trouver à la gare avec sa voiture pour l'arrivée du train. Il n'avait pas vu personne, n'avait vu le docteur depuis 2 mois. Peut-être bien, puisqu'il n'était pas là, qu'il avait dû prendre le lit, car le bruit courait en ville qu'il n'était guère solide. « Attendez que j'aie les bagages, mademoiselle. Il y a une place pour vous sur la banquette. »« Non, père Durieux, ce serait trop long. Je vais à pied. » À grands pas, elle monta la rampe. Son cœur se serrait tellement qu'elle étouffait. Le soleil avait disparu derrière les coteaux de Sainte-Marthe. Une cendre fine tombait du ciel gris, avec le premier frisson de novembre. Et comme elle prenait le chemin des Fenouillères, elle eut une nouvelle apparition de la Souleyade, qui la glaça. La façade morne sous le crépuscule, tous les volets fermés, dans une tristesse d'abandon et de deuil. Mais le coup terrible que reçut Clotilde, ce fut lorsqu'elle reconnut Ramon, debout au seuil du vestibule et qui semblait l'attendre. Il l'avait guetté en effet. Il était descendu, voulant amortir en elle l'affreuse catastrophe. Elle arrivait, essoufflée. Elle avait passé par le quinconce des platanes, près de la source, pour couper au plus court. Et de voir le jeune homme là, au lieu de Pascal, qu'elle espérait encore y trouver, elle eut une sensation d'écroulement, d'irréparable malheur. Ramon était très pâle, bouleversé, malgré son effort de courage. Il ne prononça pas un mot. attendant d'être questionnée. Elle-même suffoquait, ne disait rien, et ils entrèrent ainsi. Il la mena jusqu'à la salle à manger, où ils restèrent de nouveau quelques secondes en face l'un de l'autre, muets dans cette angoisse. « Il est malade, n'est-ce pas ? » balbutia-t-elle enfin. Il répéta simplement « Oui, malade. » « J'ai bien compris en vous voyant, » reprit-elle. « Pour qu'il ne soit pas là, il faut qu'il soit malade. » Alors elle insista. « Il est malade, très malade, n'est-ce pas ?» Il ne répondait pas. Il pâlissait davantage et elle le regarda. À ce moment, elle vit la mort sur lui, sur ses mains frémissantes encore qui avaient soigné le mourant, sur sa face désespérée, dans ses yeux troubles qui gardaient le reflet de l'agonie, dans tout son désordre de médecin qui était là depuis 12 heures à lutter, impuissant. Elle eut un grand cri. « Mais il est mort !» Et elle chancela, foudroyée. Elle s'abattit entre les bras de Ramon qui l'étreignit fraternellement dans un sanglot. Tous les deux au cou l'un de l'autre pleurèrent. Puis, lorsqu'il l'eut assise sur une chaise et qu'il put parler, « C'est moi hier, vers 10h30, qui ai mis au télégraphe la dépêche que vous avez reçue. Il était si heureux, si plein d'espoir. Il faisait des rêves d'avenir, 1 an, 2 ans de vie. Et c'est ce matin, à 4h, qu'il a été pris de la première crise et qu'il m'a envoyé chercher. Tout de suite, il s'est vu perdu. Mais il espérait durer jusqu'à 6h, vivre assez pour vous revoir. » Le mal a marché trop vite. Il m'en a dit les progrès jusqu'au dernier souffle, minute par minute, comme un professeur qui dessèque à l'amphithéâtre. Il est mort avec votre nom aux lèvres, calme et désespéré, en héros. Clotilde aurait voulu courir, monter d'un bond dans la chambre, et elle restait clouée, sans force pour quitter la chaise. Elle avait écouté, les yeux noyés de grosses larmes qui coulaient sans fin. Chacune des phrases, le récit de cette mort stoïque, retentissait dans son cœur, s'y gravait profondément. Elle reconstituait l'abominable journée. À jamais elle devait la revivre. Mais surtout, son désespoir déborda lorsque Martine, entrée depuis un instant,